Un pasteur est invité à déjeuner chez un très riche propriétaire texan. Après le repas, notre hôte emmène le pasteur sur un endroit en hauteur, d'où ils peuvent bien voir toutes les terres aux alentours. Montrant les puits de pétrole disséminés dans le paysage devant lui, l'homme dit fièrement : Il y a 25 ans, je ne possédais rien. Maintenant, aussi loin que vous pouvez regarder, tout est à moi. Ensuite, il regarde dans la direction opposée de vastes champs de grains et il dit, toujours fier de lui, « Tout cela est aussi à moi. » Puis il se tourne vers l'est où se trouve un immense troupeau de bétail et il ajoute toujours fièrement « Cela aussi, c'est entièrement à moi. » Enfin, il se tourne vers l'ouest, en direction d'une immense et belle forêt, et il conclut avec un grand sourire, « Tout cela, c'est encore à moi. » Notre homme s'arrête, pensant que, ou s'attendant à être complimenté par le pasteur pour sa grande réussite dans la vie. Mais le pasteur reste silencieux. Et puis, après quelques instants, il pose sa main sur son épaule, puis il pointe vers le ciel et il demande « Et dans cette direction-là, combien est-ce que vous possédez ?» J'aimerais ce matin que nous nous arrêtions sur deux paroles fortes de Jésus qui trouveront facilement leur place dans cette série « Et pourtant, Jésus l'a dit ». La première parole se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, c'est les versets 19 à 21. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » La deuxième parole se trouve quelques versets plus loin, au verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Nous allons commencer par la deuxième parole, celle que je viens de lire en dernier, et nous allons cheminer vers la première. Nous aurions pu faire l'inverse, ça aurait aussi fonctionné. « Nul ne peut servir deux maîtres, dit Jésus, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Dans ce verset, Jésus fait une affirmation forte, très forte même. Il est question de deux maîtres et de l'impossibilité de les servir simultanément. Le verbe « servir » dans le texte grec est littéralement le verbe « être esclave d'eux ». On pourrait imaginer, il serait concevable d'avoir, par exemple, deux patrons, deux employeurs. Mais il est inconcevable d'être l'esclave de deux maîtres à la fois. Nul ne peut servir, nul ne peut être esclave de deux maîtres, dit Jésus. Avec cette affirmation forte, très forte, Jésus sous-entend qu'il y a un choix à faire. Un choix qui est tout d'abord une question d'allégeance et puis ensuite de loyauté. Il faut choisir, dit Jésus, entre Dieu et Mammon. Dieu, c'est bien évidemment le Père céleste dont il est question dans tous les versets qui précèdent dans ce chapitre 6, c'est le Dieu de la Bible, bien évidemment. Et puis Mammon, ça nous est un petit peu moins accessible. Mammon, c'est une translittération, donc ça sonne comme dans l'original, c'est un mot araméen, Mammona, je ne le prononce certainement pas bien, Mammona, qui veut dire, qui signifie richesse ou possession, et qui est parfois, peut-être dans vos Bibles, traduit par argent. Mammon est ici personnifié, comme le Dieu, petit d, qui est concurrent à Dieu, grand D, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons affirmer ici, sans prendre beaucoup de risques, me semble-t-il, que Mammon est le Dieu de notre monde par excellence. Un Dieu qui peut prendre la place de Dieu grand D, parfois même dans le cœur des disciples de Jésus. Mammon, c'est l'argent, mais pas que. Ce sont aussi tous les biens, toutes les possessions terrestres. C'est le matérialisme au sens des biens qui deviennent une fin en soi, au sens des biens dans lesquels je place ma confiance, je place mon cœur, je place mon espérance. Jésus dit donc qu'il y a un choix à faire. Où il sous-entend qu'il y a un choix à faire. Si je suis disciple de Jésus, je ne peux pas jouer sur les deux tableaux à la fois. Je dois choisir entre Dieu et Mammon. Pour m'attacher à Dieu, je dois me détacher de Mammon, car nul ne peut servir de maître, dit Jésus. On pourrait facilement penser ici que cette parole concerne uniquement les riches. Ce serait une erreur. En fait, elle concerne tout le monde. Car que je sois riche ou que je sois pauvre ou que je sois entre les deux, mon cœur peut s'attacher à ce que je possède. Et ce que je possède ou que je souhaiterais posséder peut vite devenir mon maître. Il y a une forme de radicalité dans ce que Jésus dit ici. Une radicalité qui exclut toute forme de compromis. Jésus demande à ses disciples une allégeance sans partage et une loyauté totale. Et cette demande radicale fait que quand je sers Mammon, je ne sers pas Dieu, puisque nul ne peut servir de maître. En fait, ce partage de loyauté, quand il existe dans ma vie, n'est rien d'autre que de l'idolâtrie. Une idolâtrie que le disciple doit rejeter, doit fuir. Une idolâtrie dont le disciple doit se repentir si elle existe dans sa vie. L'affirmation forte de Jésus nous amène à nous poser les questions suivantes. Qui est-ce que je sers réellement dans ma vie? Qui est-ce que je sers par mes choix que je fais jour après jour? Qui est-ce que je sers par mes achats, par mes investissements, par mes possessions? Dieu ou Mammon? Envers qui va ma loyauté jour après jour? Dieu ou Mammon? À qui est-ce que je suis véritablement attaché dans tous les actes concrets du quotidien? Dieu ou Mammon? Pour nous aider chacun à répondre à ces questions, c'est ici que nous migrons vers le premier texte, l'autre parole de Jésus, au verset 19 et 21. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Un des moyens de savoir, de déterminer qui je sers réellement, dans ma vie est de regarder au trésor de ma vie, à ce que j'amasse dans ma vie. Notons bien ici qu'il est question de trésor et non pas d'argent. Pas d'argent seulement. Parce que toutes sortes de choses peuvent devenir un trésor pour moi. Toutes sortes de choses peuvent remplir mon cœur et finir par le soumettre. C'est la raison pour laquelle cette parole nous concerne tous, elle aussi, et pas seulement ceux que nous pourrions considérer comme riches. Les deux trésors dont parle Jésus sont soit ceux que j'amasse sur la terre, soit ceux que j'amasse dans le ciel, dit-il. Et la réalité, c'est que nous amassons tous, toujours, quelque chose, quelque part. Tous, toujours, quelque chose, quelque part. Et la vraie question pour nous ici est de savoir si c'est sur la terre ou dans le ciel. Commençons par les trésors terrestres. Que veut dire amasser des trésors sur la terre? Avant de voir ce que cette parole veut dire, considérons ce qu'elle ne veut pas dire. Ce que Jésus proscrit ici, ce ne sont pas les richesses ou les possessions en elles-mêmes. À aucun moment dans les Écritures, dans la Bible, n'est proscrit la propriété privée. À aucun moment dans la Bible, il n'est écrit qu'il est interdit de posséder des biens. Si cela était le cas, alors certainement que Jésus aurait dit à Zachée de donner tous ses biens aux pauvres et non pas seulement la moitié comme il se proposait de le faire. Dans les Actes des Apôtres, ce qui est reproché à Ananias et Saphira, ce n'est pas d'avoir gardé une partie de l'argent du produit de la vente de leurs champs, mais d'avoir menti à Dieu en prétendant donner tout, la totalité de la somme. Il est vrai qu'il y a l'exemple du jeune homme riche, à qui Jésus dit textuellement de vendre tout ce qu'il possède pour le donner aux pauvres. Nous constatons que c'est un cas unique, un cas radical et une mesure radicale qui laisse à penser que certainement son cœur était véritablement attaché à toutes ses richesses. Mais quel que soit le sens de cette parole de Jésus pour ce jeune homme riche, rien dans le texte ne nous indique que ce qu'il doit faire devient normatif pour tous. Et la suite du Nouveau Testament non plus. Si Jésus ne proscrit ni les richesses, ni les possessions de biens, il ne proscrit pas non plus de faire des économies, de mettre de côté pour les jours mauvais. L'Ancien Testament, par exemple, dans le livre des Proverbes, loue la prévoyance, hein, utilise l'image de la fourmi, bien avant... Pas Jules Fontaine, c'est Jean de La Fontaine, bien avant Jean de La Fontaine. Loue la prévoyance de la fourmi qui, dès l'été, s'approvisionne en vue de l'hiver. Et nous lisons toujours dans le livre des Proverbes que l'homme de bien transmet à des petits-fils un héritage. Le Nouveau Testament déclare dans la première lettre à Timothée que ceux qui ne prennent pas soin des leurs, de leur famille, sont pires que des infidèles. Que je transmette un héritage ou que je prenne soin des miens, j'ai besoin de bien pour cela, n'est-ce pas? La vie chrétienne normale n'est pas une vie ascétique qui ne serait faite que de privation. Les bonnes choses dont le Créateur a gratifié ses créatures sont là pour qu'elles en jouissent. Et l'Écriture le souligne à de nombreuses reprises. Ainsi, ni les possessions, ni la prévoyance, ni la jouissance ne sont en elles-mêmes des biens que Jésus proscrit. Il fallait le dire pour dissiper les malentendus. Et Martin Luther, dans son commentaire du livre de la Genèse, dit ceci: « Si l'argent et l'or sont mauvais en soi, alors ceux qui s'en gardent méritent d'être loués. Mais si ce sont de bonnes choses de Dieu, des créations de Dieu, qui peuvent être utilisées pour les besoins de mon prochain et la gloire de Dieu, est-ce que nous ne serions pas insensés, oui, même ingrats envers Dieu, si nous nous gardons de ces choses comme si elles étaient mauvaises? Car elles ne sont pas mauvaises, même si elles ont été assujetties à la vanité et au mal. Si Dieu vous a donné des richesses, rendez-lui gloire et assurez-vous d'en faire bon usage. » Alors, que condamne Jésus dans notre passage ? Ce que Jésus condamne, ce n'est pas d'avoir des biens, des richesses, des possessions, mais de les amasser. De les amasser. Autrement dit, c'est l'accumulation égoïste des biens, c'est la vie dans le luxe, c'est la vie dans l'extravagance, c'est l'accumulation de biens quels qu'ils soient qui finit par nous faire croire que la vie, notre vie, dépend de ce que nous possédons. D'ailleurs, Jésus le dit clairement par ailleurs. Dans l'Évangile selon Luc, il dit « Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Ce que Jésus condamne dans notre texte, c'est précisément cela. C'est résumer notre vie à ce que nous possédons. C'est vivre dans l'illusion que la vie n'est faite que de l'abondance de biens matériels. C'est vivre pour posséder toujours plus, avec tout ce que cela implique, comme choix professionnels, comme choix familiaux, comme choix sociaux, et donc aussi comme choix vis-à-vis de Dieu. Et puis c'est vivre en mettant ma confiance, mon espérance dans ces choses-là, et donc pas en Dieu. Je parlais d'illusion parce qu'au final, nous croyons posséder ces choses, mais ce sont nos biens qui nous possèdent. Nous sommes devenus l'esclave de Mammon quand nous amassons. Vous avez compris, je l'espère, que le problème ici, ce n'est pas l'argent ou les possessions, mais l'argent et les possessions qui prennent mon cœur, qui dirigent ma vie, qui donnent un sens à ma vie, qui deviennent les raisons pour lesquelles je me lève le matin, pour lesquelles je travaille, pour lesquelles je vis, pour lesquelles je respire. Et la réalité, quand c'est le cas, c'est que l'argent, les biens, les richesses, tout cela, c'est un très très mauvais maître pour nous. C'est un maître tyrannique qui en veut toujours plus. Et surtout, c'est un maître qui ne peut pas garantir tout ce qu'il promet. L'argent, les biens, les richesses sont de bons serviteurs, mais de très mauvais maîtres. Et toute la question pour nous ici est de déterminer l'usage que nous faisons de nos biens. Si amasser des trésors sur la terre est condamnable parce que cela équivaut à ne pas amasser des trésors dans le ciel, ce n'est pourtant pas là que Jésus met l'accent dans notre texte. L'accent est dans la durabilité des choses, ou pas. Et ceux de la terre, ou les choses de la terre, ne sont pas durables. Elles sont éphémères. Elles sont, dit Jésus, soumises au ver, à la rouille et aux voleurs. Ce qui n'est pas le cas, dit Jésus, du trésor qui est dans le ciel. Et les exemples que Jésus utilise ici sont bien sûr des exemples qui correspondent au vécu de l'époque, à la réalité de son époque. Et j'ai noté ce que John Stott écrit parce qu'il le dit bien, et il dit ceci: « À cette époque, les mites s'infiltraient dans les vêtements, et les vers détruisaient tout ce qui était enfoui dans la terre. Les souris dévoraient les stocks de graines, et les voleurs pénétraient dans les maisons et s'emparaient de tout ce qu'on y tenait en réserve. C'était facile de faire un trou dans un mur de torchis. Les vêtements étaient précieux. Les mites, ça détruisait un vêtement qu'on allait passer peut-être de génération en génération. Les supermarchés, ça n'existait pas. Dans le monde de l'Antiquité, l'insécurité était grande dans ce domaine. Nous, nous essayons de protéger nos biens grâce aux insecticides, pesticides, souricières, peintures anti-rouille et anti-vol en tout genre. Mais notre trésor se désagrège par l'inflation, la dévaluation et la crise économique. Et ce qui résiste à tous ces maux, nous ne pourrons pas l'emporter avec nous dans l'au-delà. Job avait raison quand il disait « Sorti nu du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai. » Pour toutes ces raisons, amasser des trésors sur la terre, c'est aller à l'encontre du bon sens. Parce que ces trésors ne résistent pas à la destruction ou à la disparition. Et quand c'est le cas, c'est possible, en prenant bien soin, on arrive quand même à préserver bien des choses. Mais tout cela reste ici le jour où nous mourrons, quelle que soit la nature de mes possessions. J'ai toujours été impressionné par le tombeau de Toutankhamon, découvert par Howard Carter en 1922. Et c'est une illustration triste et parfaite et triste, de cette réalité. Toutes ces richesses extraordinaires qui étaient supposées accompagner Toutankhamon dans l'au-delà pour le servir, pour lui servir, et qui sont toutes restées ici-bas, dans l'état où elles étaient le jour où elles ont été mises dans le tombeau. Lors de l'enterrement d'une personne très riche, la foule s'était agglutinée autour du cimetière. Et dans la foule, les commérages allaient bon train. Et c'est ainsi qu'une personne demandait à une autre, « Je me demande combien il a laissé. » Et l'autre de lui répondre, « Ben tout. » Nous n'en portons rien. Nous n'en portons rien dans la mort. Et tout ce que nous pouvons amasser est éphémère, fragile, corruptible. Par contre, dit Jésus, il en est tout autrement de ce que nous amassons dans le ciel. À ce sujet, l'apôtre Pierre écrit dans sa première épître, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Quelle est la nature de ces trésors célestes? Que veut dire amasser des trésors dans le ciel? Et là aussi, il faut commencer par écarter une fausse piste, ce que ça ne veut pas dire. Et ce que certains pourraient peut-être penser ici, à savoir qu'il est question ici de ce que l'on appelle le salut par les œuvres, le salut par les mérites. Amasser des trésors dans le ciel équivaudrait à faire toutes sortes de bonnes œuvres qui seraient alors créditées sur notre compte céleste. Ce n'est absolument pas de cela dont Jésus parle ici. D'ailleurs, nulle part dans la Bible, il n'est question de salut par les œuvres, par les mérites. Le salut, c'est un cadeau que Dieu nous fait, un cadeau gratuit, immérité, que nous devons accueillir et recevoir par la foi. Alors oui, c'est vrai, il y a des œuvres bonnes à faire, mais des œuvres qui suivent le salut et non pas qui le précèdent. Alors que veut dire amasser des trésors dans le ciel? Amasser des trésors dans le ciel, c'est faire des choses qui ont de la valeur pour l'éternité. Ce sont des activités temporelles dont la portée est éternelle. C'est investir mon temps, mes biens, dans ce sens-là. Et qu'est-ce qui a de la valeur pour l'éternité ? C'est avant tout le salut. Ce sont avant tout les personnes dont la vie a été transformée, touchée par le Christ, ou dont la vie pourrait être transformée et touchée par le Christ, par l'Évangile. Ce qui m'amène à dire qu'amasser des trésors dans le ciel, c'est par exemple contribuer à l'annonce de l'Évangile, en témoignant moi-même, ou en participant, en soutenant des ministères, des personnes qui le font. C'est participer de près ou de loin à ce qui touche à la mission, à ce qui touche à faire connaître le Christ. C'est agir pour la fortification de la foi, c'est s'investir dans les missions de l'Église, c'est s'investir dans tout ce qui touche à la diffusion de la Bible, et nous pourrions donner encore d'autres exemples. Chers amis, le seul investissement dont les dividendes sont éternels est le soutien à tout ce qui a une portée pour l'éternité, tout ce qui contribue à l'avancement du règne de Dieu. Et soit dit en passant, c'est le seul investissement, cet endroit, cet investissement dans cet endroit-là, est le seul investissement et le seul endroit où mon argent est vraiment en sécurité. Et ce trésor ne pourra jamais ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller. Mais peut-être êtes-vous en train de vous demander, mais comment savoir si je ne suis pas en train d'amasser des trésors sur la terre ? Comment être sûr que mon rapport aux choses matérielles est bon ? Nous avons tous des biens, des possessions, des richesses. Nous avons tous des choses auxquelles nous tenons. Des choses que nous désirons. Comment savoir ? Comment arriver à faire la part des choses ? Eh bien, Jésus donne la réponse dans notre verset. Ne vous amassez pas, etc. Et puis à la fin, il dit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Mais me direz-vous alors, comment savoir où est mon cœur ? Il se peut que je fasse fausse route, il se peut que j'ai mal compris quelque chose. La réponse que j'apporterai à cette question est la suivante. Mon cœur est là où est mon argent. Mon cœur est là où je mets mon argent. Mon cœur est là où sont mes trésors. Parce que notre argent suit toujours nos attachements, suit toujours ce qui a de la valeur pour nous. J'utilise mon argent en dehors des achats que je dois faire, bien sûr, pour vivre. J'utilise mon argent pour ce que j'aime, pour ce qui a de la valeur pour moi. Et nos relevés bancaires peuvent en dire long sur l'endroit où se trouve notre cœur. Il se trouve là où se trouve notre argent. Parfois, on peut entendre parmi les chrétiens des propos tels que, et je les ai déjà pensés et je les ai déjà dit moi-même, j'aimerais tellement avoir un cœur plus grand pour la mission. J'aimerais tellement avoir un cœur qui soit plus attentif aux autres. J'aimerais tellement avoir un cœur qui soit plus entier pour le Seigneur. Chers amis, la solution, en fait, elle est assez simple. Si je veux que mon cœur s'attache à quelque chose, il suffit que j'y mette mon argent. Est-ce que je veux, par exemple, un cœur plus grand pour la mission ? Ben alors, il faut que je commence à donner pour la mission. Et je verrai, vous verrez que l'intérêt pour la mission viendra tout seul. Est-ce que je veux un cœur pour les choses éternelles, pour les choses qui durent ? Eh bien, il faut que je commence à mettre mon argent dans ce qui a une portée éternelle. Et l'intérêt pour ces choses suivra. C'est assez basique, mais je crois que c'est infaillible. Notre cœur se trouve toujours là où est notre trésor. Là où est ton trésor, dit Jésus, là aussi sera ton cœur. Et sans doute est-il vrai et juste de dire que peu de choses, peu d'autres choses, définissent plus clairement notre attachement à Dieu que la façon dont nous dépensons notre argent. Il est temps de conclure. Il est temps de conclure en posant quelques questions rapidement et puis en arrivant à deux principes. À quoi nous conduit tout ce que nous venons de dire? Est-ce que la solution, ça serait de devenir pauvre? Peut-être que ça réglerait tout. La réponse est non, pas nécessairement. Bien que Jésus appelle encore certains, comme le jeune homme riche, à une vie de pauvreté totale, nous ne pouvons pas l'exclure, il y a des exemples. Ce n'est cependant pas la vocation de tous les disciples. On ne peut pas justifier ça bibliquement parlant. Et en fait, la pauvreté, ça ne règle rien. Et ça ne règle surtout pas la question du cœur et des attachements de mon cœur. Je peux être pauvre et près de Dieu, ou alors pauvre et loin de Dieu. Je peux être pauvre et généreux, ou alors pauvre et pingre. Je peux être pauvre et amasser des trésors sur la terre, ou pauvre et amasser des trésors dans le ciel. Et puis cette vaste question à laquelle je ne répondrai pas maintenant, est celle-ci: que veut dire être pauvre aujourd'hui, en 2021, en France? Si la solution n'est pas dans la pauvreté, la richesse, nous l'avons dit, n'est pas forcément le problème. Bien sûr, je peux être riche et loin de Dieu, riche et vivre égoïstement de tous mes biens, bien évidemment. Mais je peux aussi être riche et vivre près de Dieu, en mettant ma richesse à son service, au service de mon prochain. Je peux être riche et amasser des trésors sur la terre, ou riche et amasser des trésors dans le ciel. Notons ici que dans le rapport à une très grande partie des habitants de notre planète, nous sommes tous ici présents ce matin des riches, des nantis. La richesse n'est pas forcément le problème, avons-nous dit, mais elle peut quand même grandement compliquer les choses. Pourquoi ? Parce que la richesse induit entre autres un statut du pouvoir, une confiance excessive en soi, qui font qu'il est beaucoup plus difficile, quand je suis riche, je parle là de vraie richesse, de ressentir mon besoin de Dieu. Beaucoup plus difficile, quand je suis très riche, de vivre dans la dépendance à Dieu. Je pense ici par exemple à cette parole de Jésus dans Luc au chapitre 18, qui dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. L'image est parlante. Oui, les richesses peuvent nous détourner notre cœur de Dieu en nous donnant le sentiment illusoire que nous sommes maîtres de notre destin et que nous n'avons pas besoin de Dieu. Dieu, pourquoi faire quand je peux me payer tout ce que je veux? Dieu, pourquoi faire quand je nage dans le sentiment de sécurité de mon compte en banque et de mon frigo bien garni? Dieu, pourquoi faire? C'est parce qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu, et s'ils y entrent, d'y vivre selon Dieu, que nous trouvons dans la Bible des paroles qui sont adressées spécifiquement aux riches. Non pas que la Bible, que Dieu ait quelque chose contre les riches, mais parce qu'il y a une difficulté particulière. Et je pense ici, par exemple, à ce texte de Paul à Timothée, 1 Timothée 6, versets 17 à 19, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir afin de saisir la vraie vie. Oui, les richesses produisent de l'orgueil, produisent la suffisance et ces choses éloignent de Dieu. Nous éloignent de Dieu et nous éloignent de notre prochain. Non, la richesse n'est pas le problème, mais elle peut grandement compliquer les choses. Quelle est la recommandation ici de Paul aux riches ? Qu'ils mettent leur espérance en Dieu, non pas dans leur richesse, en Dieu qui donne tout avec abondance, dit-il, qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes et qu'ils soient généreux. Et ainsi, ils amasseront un beau et solide trésor pour l'avenir, c'est-à-dire dans le ciel. Et il y a dans ces recommandations ici un programme, je crois, pour chacun de nous, si nous voulons amasser un trésor, des trésors dans le ciel. Et un programme que l'on pourrait résumer premièrement par ce principe de la générosité. En fait, la générosité va pour les riches, mais elle va pour tout le monde, là encore. Je peux être généreux, quel que soit le montant de mes revenus, quel que soit le montant de mon compte en banque, je peux être généreux en ayant peu ou en ayant beaucoup. Mais quand je suis généreux, et quels que soient mes moyens, je suis l'imitateur de Dieu qui donne tout avec abondance. Dieu qui nous donne tout avec abondance. Je suis l'imitateur de Dieu quand je suis généreux. Et pour que la générosité puisse être bien vécue, il faut lui adjoindre un autre principe. Et ce principe, on le trouve quelques versets auparavant de ce texte, 1 Timothée 6, versets 6 à 10. Certes, dit Paul, c'est une grande source de gain que la piété si l'on se contente de ce que l'on a. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Il y aurait bien évidemment beaucoup de choses à dire ici, je vais vraiment être bref maintenant et simplement m'arrêter sur le sens de ce qui est dit au verset 6. Si l'on se contente de ce que l'on a, se contenter de ce que l'on a, c'est l'attitude du cœur qui nous permet d'avoir la bonne perspective au sujet de nos biens. Et vous avez sans doute remarqué que ici Paul ne s'adresse pas aux riches, mais il s'adresse à ceux qui désirent le devenir, à ceux qui espèrent le devenir. Verset 9, ceux qui... Voilà, verset 9, « Ceux qui veulent s'enrichir, dit Paul. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Ne pas se contenter de ce que l'on a, c'est vouloir plus. C'est vouloir plus, dit Paul, mais vouloir plus, c'est risquer de tomber dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Il y aurait beaucoup d'exemples contemporains à donner ici. Mais bien sûr, en parlant de vouloir plus, je ne parle pas ici des choses qui sont nécessaires à la vie, comprenez-moi bien. Ce n'est pas de cela. Nous avons tous besoin de choses et de projeter des achats. Ce n'est pas de cela dont on parle. Vouloir plus n'est pas la bonne attitude, car elle finit par conduire les hommes, dit Paul, à la ruine et à la perdition. Et en plus, elle traduit que l'amour est mal placé. Vous avez noté au verset 10, car l'amour de l'argent, ce n'est pas l'argent qui est le problème, c'est l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Je pense là aussi que nous avons dans nos médias l'illustration quotidienne de cette vérité. Chers amis, nous avons tous des biens. Et c'est la raison pour laquelle les questions qu'on l'on a posées au fur et à mesure de ce message nous concernent tous. Et les réponses à ces questions, bien évidemment, appartiennent à chacun de nous devant Dieu. Qui est-ce que je sers réellement par ma vie, par mes biens, par mes achats ? Dieu ou mammon ? Envers qui va ma loyauté jour après jour ? Dieu ou mammon ? À qui est-ce que je suis véritablement attaché dans tous les actes concrets du quotidien ? Dieu ou mammon ? Où est mon cœur ? Où est mon argent ? Où est-ce que j'amasse mes trésors ? Sur la terre ou dans le ciel ? Le rapport aux choses, je pense, a toujours été compliqué sur terre, mais il est sans doute plus que jamais dans notre monde qui est obnubilé par le matérialisme. Nous sommes bombardés du matin au soir et du soir au matin par des sollicitations en tout genre qui nous invitent à vivre égoïstement de tout ce que nous pouvons acquérir, de tout ce que nous pouvons amasser dans nos vies. Mais Dieu nous propose autre chose. Il nous propose de lui confier notre cœur et d'amasser des trésors dans le ciel. Il nous propose de vivre dans le contentement et dans la générosité. Et c'est en vivant ainsi que nous serons pleinement heureux, parce que nous serons dans la volonté de Dieu. Chers amis, nous ne pouvons pas servir Dieu et mammon, mais nous pouvons servir Dieu avec mammon. Amen.